Matin, ça va être de parler un petit peu, on parle de transformation, mais transformer de quoi? Transformer pourquoi? Comment? Ça va être notre vraiment ce sur quoi on va s'attarder. Je vais aussi faire des liens avec ce qu'on étudie en ce moment à l'étude biblique. On étudie le livre de Romains et je vois que c'est vraiment en lien avec tout ce qui ce qu'on vit au travers de l'Église. Donc quand Dieu essaie de parler, il essaie de parler par différents biais, que ce soit l'enseignement, ce matin dans la louange, tous les chants qu'on a chantés. C'est très clair, c'est que voilà, le Seigneur nous attend quelque part et on aimerait savoir où et comment s'y prendre. Et c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous savez, le comportement humain, si on parle de transformation, c'est finalement quelque chose qui nous colle à la peau. On a tous un comportement, on a une façon de fonctionner, une façon de raisonner, une façon de sentir les choses. On est tous différents, on a un comportement. Et ce comportement, ça fait des siècles qu'il a été étudié, analysé, décrypté dans différents domaines. Ça a été largement décrypté, que ce soit au travers des ouvrages, on est en France, des philosophes, au travers de différents ouvrages de philosophie, on a essayé de comprendre vers quoi se portaient les désirs de l'homme, comment, voilà, on a traité des sujets un peu généraux, au travers de la science, les psychologues essaient de comprendre ce qui se passe dans notre tête, pourquoi on agit de cette manière. Pourquoi on n'agit pas de celle-ci? Pourquoi on a une tendance parfois à l'autodestruction? On essaie de régler ces problèmes-là au travers de la psychologie. Par les biais de la médecine, au travers des psychiatres qui vont être capables de vous donner même des médicaments pour changer votre comportement. Parce que peut-être que tu as un comportement qui n'est pas en accord avec la société, en accord avec ton propre corps, en accord avec les gens qui t'entourent. Et peut-être que voilà, t'es dans une situation. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi, comment ça se fait que ce comportement, parfois, tire d'un côté ou d'un autre. La religion aussi parle du comportement au travers de nombreux écrits. Pourquoi, comment faire ça, comment agir dans telle situation, quels sont les principes, les vertus que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on doit suivre. La religion en parle, différentes religions en parlent. La méditation, toutes sortes de choses. On essaye de maîtriser notre comportement. Et puis finalement, ce qui va nous intéresser, c'est comment gérer ça au travers de la foi. La condition humaine, vous le savez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est capable du meilleur comme du pire. On est capable de s'entraider les uns les autres comme se détruire. On est capable vraiment de tout. Et la Bible parle de ces choses très clairement. C'est des choses qu'on a déjà abordées à plusieurs reprises. Et c'est souvent l'apôtre Paul qui en parle, et notamment dans le livre de Romains qu'on étudie, il va nous parler de cet homme charnel et de cet homme spirituel, qui a une confrontation entre les deux. Et là, on va lire en Galates, on va commencer tout de suite en Galates, on va lire au chapitre 5, du verset 16 à 25, quelques versets que je ne vais pas lire juste pour essayer de condenser les choses. On va commencer par là, si vous le voulez bien. Donc, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ici, on a donc deux choses qui sont clairement signifiées. Il existe deux natures, la nature charnelle et la nature de l'homme spirituel. Ils sont opposés entre eux. Difficile de les faire cohabiter, difficile de gérer les deux en même temps. Ça reste un combat, ça reste un défi, ça reste quelque chose avant même de te battre contre les démons, toutes les puissances, les autorités, tout ce que vous voulez. Il y a déjà quelque chose en toi qui nécessite que tu puisses le gérer, le canaliser, mettre en place des choses concrètes pour gérer cette chose-là. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, vous les connaissez, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les magies, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc il y a vraiment des choses qui sont contraires, on comprend là qu'il y a des choses qui sont contraires finalement au plan de Dieu pour nous, à sa volonté pour nous, et elles sont clairement exprimées ici. Ce ne sera pas forcément notre sujet ce matin, mais c'est important de comprendre que ces choses-là sont en nous, c'est des choses vers lesquelles notre comportement, notre être intérieur va tendre et on va devoir gérer ça dans notre vie. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer ces choses-là ou alors vous, c'est tranquille, vous êtes des anges, vous fonctionnez facilement, vous n'êtes attiré que par la présence de Dieu, vous attendez qu'une seule chose, c'est qu'on soit dimanche pour rentrer dans la louange, l'adoration. Vous êtes tous comme ça ou non? Non, c'est difficile, il y a une réalité, il y a quelque chose en nous. Parfois, je resterai bien dans mon lit ce dimanche parce que j'ai une semaine difficile. Lui, il m'a gonflé, celui-là aussi, et je ne suis pas d'humeur. Vous voyez, on a tous vécu des choses comme ça. Ou alors, parfois, on va tendre. Voilà, on a tous des tendances. Et il est nécessaire que tu puisses cibler dans ta vie quelle est la faille qu'il y a dans ta vie pour que finalement, tu puisses prendre garde à ces choses-là et rester en cohérence et avec ta foi et envers la volonté de Dieu pour toi. Ensuite, au verset 22, il nous est clairement dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ce qu'on peut constater, c'est que souvent la joie est conditionnée, la paix est conditionnée, et puis si t'as, dans ton boulot ça va bien, bah, t'es en paix. Si dans ta famille ça va bien, t'es en paix. Si tout se passe correctement pour toi en ce moment, t'es dans la joie. Vous voyez, souvent, c'est conditionné. Si tu vis ces choses-là au travers de la chair, c'est conditionné à la chair, donc conditionné à ton environnement, donc conditionné aux circonstances. Et ce que nous dit la parole de Dieu, c'est « Ok, ces choses-là, tu peux les vivre par le biais de certaines choses que tu vas pouvoir accomplir, mais en Jésus-Christ, ces choses-là sont acquises. » Donc, tu peux les vivre de manière naturelle, peu importe les circonstances. Et c'est ce qu'on a chanté ce matin. Peu importe les circonstances. Je choisis de bénir ton nom éternel. Parce que c'est là que je vais trouver la source de ma joie, la source de mon bonheur, la source de ma paix. Peu importe ce qu'il y a autour de nous. Et c'est le défi, le plus gros défi dans notre vie, en réalité. Tu peux avoir toutes les valeurs bibliques que tu veux, connaître les enseignements. Si tu ne vis pas ça, ben en fait, tu ne vis pas en Jésus-Christ. On a chanté « Je suis vivant en toi ». C'est en toi, réellement, ces choses-là prennent vie, agissent en moi. Donc, il y a réellement une différence pour ceux qui font les fondamentaux, chapitre 3, verset 3e livre, chapitre 3, entre connaître la volonté de Dieu et mettre en application la volonté de Dieu. Parce qu'on passe de l'intellectuel, on passe de la raison à quelque chose qui doit pénétrer dans notre cœur et qui doit maintenant être une source et qui doit jaillir malgré les circonstances. Et là est tout le défi. C'est compliqué, c'est pas facile. Alors, on peut nommer trois natures. L'homme, premièrement, l'homme naturel. Et c'est ce que Romains, on est en train d'étudier ça dans Romains, pour ceux qui suivent. On va entrer maintenant dans la question de l'homme spirituel. Mais la première nature, c'est la nature naturelle. Tu es naturel. Et naturellement, tu as le choix de croire ou de ne pas croire en un Dieu créateur, en un Dieu vivant, toutes ces choses. Tu choisis de croire ou de ne pas croire. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses croire. Mais tu n'es pas obligé de croire. Alors, tu vivras naturellement selon... ta propre morale, selon tout ce que tu veux, tout ce que tu as appris, tes codes, tes vertus, ce que tu as envie de mettre en application, c'est ce que tu suivras tout simplement. Mais dans tout ça, il n'y a pas forcément Jésus, tu ne crois pas en Dieu. Tu es athée, tu es humaniste, tu es tout ce que tu veux, mais tu ne crois pas en Dieu. Ça, c'est l'homme naturel. Il vit comme il est. Il fait avec ce qu'on lui a donné, mais il ne se soumet à aucun Dieu. Ça marche ? L'homme naturel. Ensuite, ici, on nous a clairement parlé de l'homme charnel. L'homme charnel, eh bien, c'est celui qui, sincèrement, profondément, a eu une approche avec Dieu. Et profondément et sincèrement, il va accepter Christ dans sa vie. Il va épouser sa cause. Il va dire, je reconnais, Jésus, que j'ai besoin de toi et que je veux bâtir ma vie. Je veux construire ma vie avec toi. J'espère que tout le monde ici, vous êtes dans ce cas-là. Seigneur, je veux te suivre. Je veux tout simplement t'écouter, entendre ta voix. Et je voudrais vous rappeler trois choses essentielles. Dieu connaît l'avenir. Il connaît les choses qu'il y a devant nous. Il désire nous conduire. Et la troisième chose, c'est qu'il veut nous bénir. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Tu peux pas évacuer ça facilement. Ça, c'est trois vérités claires et nettes. Dieu connaît les choses qui sont devant toi. Il veut te conduire dans ce qu'il a prévu pour toi. Et en plus, dans tout ça, il veut te bénir. Il veut que ton bien. Ça, c'est la pensée de Dieu pour nous, qui est claire. Si tu penses différemment, tu es à côté de la pensée de Dieu pour toi. Okay ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu acceptes que les circonstances impactent l'homme intérieur. Et à partir de là, tu vois, tu vas être dans une dualité. Sincèrement, je veux te suivre, Seigneur, mais je n'arrive pas à comprendre comment cette situation et cette situation peuvent m'arriver. Et je vais être conduit par des pensées, des actions, des choses qui sont charnelles. Donc tu aimes Jésus, mais finalement ta chair a encore beaucoup de place chez toi et tu es conduit par ta chair. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ou alors, de manière ponctuelle. Ponctuellement, je suis prêt à faire des choses pour le Seigneur, à vivre, à accueillir son conseil, à accueillir. Mais à un moment donné, quelque chose va me déstabiliser et je vais être dans cet état-là. Et Paul dira qu'il a connu cet état-là. Si vous lisez bien, il a connu cet état-là. Il était un homme naturel qui fonctionnait au travers de la loi, des rites et toutes ces choses-là. Il a rencontré le Seigneur. Il a été un homme qui a rencontré Jésus, qui l'a reconnu. Il a été un homme charnel qui avait envie vraiment de suivre cette nouvelle cause, mais qui était encore attiré par tous ses préceptes, par toutes les choses qui étaient attachées à lui. Et ensuite, il est devenu un homme spirituel. Donc, petit spoil, pour les deux prochaines études bibliques, on va parler de l'homme spirituel. Qu'est-ce que l'homme spirituel ? Et Paul en parle. Qu'est-ce que c'est ? Comment être un homme spirituel ? Comment vivre comme un homme spirituel ? Donc, l'homme spirituel, c'est celui qui reconnaît aussi, qui accepte sincèrement dans sa vie Christ, mais c'est celui qui comprend la parole de Dieu et qui arrive activement, concrètement à la mettre en pratique. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui est allongé constamment dans la prière, à léviter en l'air, à faire des drôles de trucs. Ce n'est pas ça, l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui met pratiquement en action la parole de Dieu. J'ai compris que cette attitude-là en moi n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Seigneur, j'accueille ton conseil, je le comprends intellectuellement, je le comprends dans ma raison et je suis transformé, je laisse l'Esprit de Dieu me transformer. Parce que sans l'Esprit, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Donc l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui accueille le conseil et qui laisse l'Esprit de Dieu lui parler. Ça marche ? On a donc isolé, aujourd'hui, ce matin, on ne va pas parler de l'homme naturel, on a isolé donc les deux types d'hommes, l'homme charnel, l'homme spirituel. Tous les deux, ils croient en Christ. Tous les deux, ils veulent suivre Christ. Alors, on va voir. 1 Timothée 2, versets 1 à 5. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Point. On est dans un contexte compliqué actuellement. Compliqué parce que les hommes charnels se réveillent. Ils ont un choix à faire. Face à eux, plusieurs choix, pas forcément tous favorables. Je parle bien ici de notre pays, hein, de l'état politique de notre pays. Et les hommes charnels se réveillent. Les hommes, surtout naturels, se réveillent. Moi, j'aimerais ça, il faudrait ceci, il faudrait cela, on devrait faire comme ci. Tout le monde a raison. Et vous voyez, c'est la bagarre. Ça, c'est purement l'homme naturel, l'homme charnel qui parle. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, je vous exhorte donc à faire des prières, à prier pour ces situations-là. Et finalement, afin que quoi ? C'est quoi l'objectif ? L'objectif, ce n'est pas prier parce que tu es un écolo et que tu veux qu'il y ait plus d'éoliennes. Ça, Dieu, excuse-moi, mais... C'est pas ça. Le but, c'est que on prie pour que nous menions une vie tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre réellement, personnellement, dans ton couple, dans ta famille, au travail, partout où tu es, une vie paisible. Dieu veut que tu aies une vie paisible. Et on a beaucoup de chrétiens qui s'égarent. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Dans le domaine, dans un domaine ou l'autre de la société, et on commence à proclamer, il faut briser ceci, il faut faire ceci, on combat cela, on combat ceci, toutes sortes de discussions, alors que Dieu, les choses sont claires. Priez pour que vous ayez une vie paisible. Je ne vous demande pas de vous battre, je ne vous demande pas de porter des causes je ne sais où, je vous demande le combat, il est où ? Il est dans la prière. Là, il est à genoux. Il n'est pas sur YouTube à faire des vidéos sur toutes sortes de choses. Il est à genoux dans la prière, Seigneur, il faut que quoi qu'il arrive, toi tu connais l'avenir, toi tu sais ce qui va se passer, tu nous as prévenus, mais tu nous as demandé de garder notre cœur dans ces situations-là pour qu'on reste paisible, pour qu'on reste calme, serein, parce que nous, notre espoir, il est en toi. Il n'est pas dans les hommes, il n'est pas dans ma réussite professionnelle, il n'est pas dans la grandeur de mon compte bancaire. Ce n'est pas dans tout ça qu'est ma paix, mais elle est en toi, Jésus. Et Paul dira, je suis capable de vivre une vie, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, cet homme-là était un homme spirituel et a dit, moi, peu importe, je ne troquerai jamais ma paix et ma joie que acquise par le sang de Jésus pour toutes sortes de causes. Ça, c'est Jésus qui l'a payé. Ça a été payé à grand prix. C'est plus précieux que toute autre chose. Parfois, on est loin de tout ça. Parce qu'on laisse l'homme charnel se réveiller. Tu comprends ? Eux, c'est des racistes, c'est ceci, c'est cela. Et lui, il pense comme ça. Tu comprends ? Moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis chrétien. Ah bon ? Prie. Parce que de toute manière, ce qui doit se passer, se passera. Et le Seigneur t'invite à prier. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc la volonté de Dieu qui prime sur tout autre, c'est que tous viennent à la connaissance de Dieu d'une manière ou d'une autre. Par mon témoignage, par mon attitude, par ce que je vais être capable de communiquer. Et si je troque ma joie, ma paix, que je troque les choses que l'esprit me donne pour un esprit de colère, un esprit de haine, de comparaison, du jugement, en quoi je suis un bon témoignage pour que les autres parviennent à la connaissance de Dieu ? C'est impossible. Donc Dieu demande de nous de vraiment garder nos cœurs. Il y a une différence entre le désir de Dieu pour nous et ce qu'il veut vraiment pour toi et ce qui est réellement effectif à l'instant dans ta vie. Actuellement, Dieu veut des choses pour toi, là tout de suite. Il aimerait tellement que tu sois l'homme qu'il a prévu que tu sois, ou la femme, que tu découvres l'homme spirituel que tu es, que tu fonctionnes d'une certaine manière, et Dieu, il y a déjà un plan tellement précis pour toi. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui le retient. Parce que dans ma réalité, je suis toujours dans des combats, je suis toujours dans des situations où c'est difficile, et je n'entre pas pleinement dans ce plan-là. C'est donc un défi pour nous clair, c'est de nous approcher de plus en plus du plan de Dieu pour nous. Pas dans toutes sortes de rites et de pratiques, mais de comprendre quel est le cœur de Dieu pour ma vie, moi, Alexis. Toi, Jacob, qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Profondément. Ensuite, qu'est-ce que Dieu veut pour nous en tant qu'Église ? Ok, Seigneur, j'ai compris ce que tu veux, mais j'ai du mal à le toucher, j'ai du mal à penser comme toi, et je veux vraiment avoir ta pensée. Alors, Seigneur, transforme mon cœur pour que je puisse m'approcher davantage. Et parce que je t'aime tous les jours de plus en plus, j'ai envie de te faire plaisir. Beaucoup aimeraient qu'on prouve Dieu. Prouvez-moi que Dieu existe. Vous voudrez qu'on prouve Dieu par la raison, par les raisonnements. Et s'il y avait Dieu, tac, 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 tac. Vous savez, moi, j'aime ma femme et je n'ai pas besoin de te le prouver. Est-ce que j'ai besoin de te le prouver ? Non, je n'ai pas besoin de te prouver. Est-ce que je dois te le prouver ? Non. Je l'aime, c'est tout. D'accord ? J'aime mon Dieu, je n'ai pas besoin de prouver que j'aime mon Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il m'aime. Pour moi, c'est une vérité qui est enracinée dans mon cœur. C'est quelque chose que je ne peux pas, par un raisonnement quel qu'il soit, je peux expliquer les versets, je peux dire, mais je ne peux pas convaincre sur ça. Mallory, elle n'a pas besoin de me prouver qu'elle aime Jason. Il suffit que je regarde ses yeux quand il passe, j'ai compris. Ouais. Il suffit que quelqu'un te voit dans certaines situations et dit « moi, je vais m'en remettre à Dieu. » Ah ben, comment ça se fait que lui, sa priorité, c'est Dieu, alors que là, il faut réagir. Ah ben, lui, il aime Dieu plus que toutes sortes de batailles, toutes sortes de combats. L'objectif pour nous, c'est que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous s'accomplisse concrètement dans nos vies. Alors, il y a deux ingrédients pour ça. Deux ingrédients. Et les deux ingrédients, le premier c'est Dieu, le deuxième c'est toi. Et c'est une répartition à 50-50. Il n'y a pas 65% de Dieu, 35% de ma part. Il n'y a pas 90% de Dieu, 10% de ma part. C'est du 50-50. Et la question c'est quoi ? C'est une question d'engagement. Dieu s'est engagé, s'est déjà engagé pleinement pour toi. La preuve, Jésus-Christ à la croix. Il a dit quoi? Il a dit qu'il voudrait que tu sois totalement libre, libéré de toute cette liste de choses qui te tirent vers le bas. Tu vois. Dieu a dit quoi? Il a dit, j'ai envoyé mon fils, si tu crois en lui, par ses meurtrissures, par ton sang, tu es libre. Il ne peut pas faire plus. Mais il faut que toi, personnellement, tu t'engages dans ce chemin-là. Si tu ne t'engages pas dans ce chemin-là, il manque 50%. C'est un peu comme quand tu vas à la mer et tu sais, tu ne vas pas franchement. Tu mets un pied, deux pieds, tu laisses l'eau arriver jusque-là. Et puis là, tu as chaud en bas des jambes et puis tu as froid parce qu'il y a un petit vent frisqué et tu restes comme ça. C'est une position hyper inconfortable. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime l'eau très froide et il fait très chaud parce que quand je rentre dans l'eau, je sens quelque chose. Quand je sors, je sens quelque chose. Mais quand c'est médium, tu vois, 25 degrés, puis l'eau, elle est à 22, je ne supporte pas ça. Les 2 degrés, là, ils me posent problème. Parce que je rentre, je sens, je suis frisqué, je ne suis pas bien. Mais c'est cette sensation-là. C'est soit tu t'engages à 100% avec Dieu, soit tu sors de l'eau. Parce qu'en fait, tu vas être mal à l'aise. Tu vas essayer de plaire à des gens, plaire à l'église, plaire à un fonctionnement, plaire à, peut-être à Dieu d'une certaine manière, mais toi-même, tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu ne vis pas les choses pleinement. Tu ne vis même pas ce que vraiment Dieu veut pour toi. Mais si tu dis, ok, je veux vraiment m'engager, c'est dur, je mets un pied, tu vois, c'est différent d'être là et de s'arrêter, mais de dire, je mets un pied, Seigneur, voilà, je veux en mettre un deuxième, il y a la volonté, je mets un deuxième, je mets un troisième, je rentre, je me bats, je rentre dans le truc, et puis, ah Seigneur, je suis arrivé ici, maintenant, il faut que je plonge. Ça ne vous rappelle pas un verset, ça? Allez, les chevilles, les genoux, les hanches, et ensuite plonger. Il faut plonger dans les projets de Dieu pour nous. Alors, c'est une question d'engagement. Je veux te rappeler que Dieu a déjà fait sa part pour toi. Et ce qu'on constate souvent dans la relation d'aide, dans le travail pastoral, c'est souvent, on demande beaucoup de choses à Dieu, c'est toujours... Mais Dieu y a déjà fait. Moi, ce que je dois ramener les gens à dire, mais Dieu a déjà fait pour toi. La question, ce n'est pas de savoir s'il l'a fait, s'il veut le faire, s'il ne veut pas le faire. C'est Dieu veut que tu sois béni. Il veut ton bien. Il veut que tu réussisses. Il veut que ça se passe bien dans ton couple. Il veut que ça se passe bien dans ta famille. Il veut tout ça. Je n'ai pas besoin de te convaincre, c'est écrit. La question, c'est est-ce que tu le vis? Est-ce que tu crois que c'est possible? Et là, ce n'est plus la part de Dieu. Ce n'est plus la part du pasteur qui prie pour toi. C'est plus la part. Nous, on te conduit à croire, à faire ta part. C'est toi qui es responsable si tu crois ou tu ne crois pas. Si tu décides de rester dans cet état d'homme charnel ou si tu décides de dire « Ok, je veux devenir un homme spirituel dans ce domaine. J'en ai marre d'être ballotté de gauche et de droite. Je veux vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour moi. » La détermination, mais surtout un engagement profond. Ça te va? Avec Dieu, c'est du sérieux. Il nous l'a prouvé, je ne vais pas vous le répéter. Jésus à la croix, il a donné son fils. C'est clair, c'est signé, le contrat est signé de son sang. C'est sérieux. C'est sérieux. Quand j'ai lancé mon entreprise, on était avec Chanel et la question c'était que j'avais 3 enfants à l'époque. Attendez, 3. Esther. Et alors, je me posais beaucoup de questions. Ça faisait 2 ans que je réfléchissais. Et la question c'était, comme Chanel, avait s'occuper des enfants et aussi des associations ici et de l'Église, ben, il fallait que moi, financièrement, je puisse tenir la route, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut faire face à la réalité. Et donc, je me suis dit, Alex, si tu lances ton entreprise et que ça ne fonctionne pas, c'est des questions légitimes. C'est la raison qui tourne. Si ça ne fonctionne pas, comment tu fais? Il y a 4 personnes en péril, là. C'est pas juste, on ne s'amuse pas. C'est tu dois réussir. C'est pas peut-être, on verra, on teste, on essaye. C'est soit tu réussis, soit tu rates. Et donc, je n'avais pas le droit à l'erreur. Et pendant 2 ans, ça tournait. Pendant la première année, je râlais. La première année, c'était, Seigneur, j'en ai marre de travailler comme ça, je travaille comme un dingue, et puis je ne vois pas vraiment le fruit de mon travail. Donc, il faudrait que je me lance. Mauvaise base. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je peux. J'avais un mal-être en moi. Et le Seigneur m'a dit, et c'était clair, c'est tant que je ne te le dis pas, tu ne bouges pas. Je n'ai pas bougé. Et Dieu a travaillé mon caractère. Mon comportement, j'ai été transformé dans une façon de penser, dans une attitude. Ah, c'était dur. J'ai pas fui, mais c'était dur. Et la deuxième année, c'est autre chose. C'était, Seigneur, est-ce que j'étais prêt? C'était bon, mon cœur était prêt. Mais c'était, est-ce que je suis prêt à le faire? Vous voyez, au moment où toutes les planètes sont alignées, mais est-ce que là, je vais y aller par la foi? Est-ce que réellement, je crois, Seigneur, que tu connais mon avenir et que tu veux que tout se passe bien et que c'est vraiment ta volonté? Ces questions qui font que tu ne le sauras pas tant que tu ne l'as pas fait. C'est comme si Dieu y ouvre les portes, mais tu ne sauras pas tant que tu ne l'as pas fait. Et je suis rentré un soir à la maison, j'ai pris Chanel entre quatre yeux, je me suis assis, je dis, chérie, je pense que c'est le moment, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a regardé, elle a dit, écoute, c'est toi qui sais, je te fais confiance à 100%, mais je serai avec toi, je te soutiens. J'ai arrêté l'entreprise, je n'avais aucun travail derrière moi. Et je n'ai jamais manqué de rien. Tout de suite, le travail est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai lancé l'entreprise, c'était sérieux. Donc si tu es sérieux, les gens savent que tu es sérieux, donc ils t'appellent. Mais quand tu parles, peut-être que je ferai quelque chose et j'attends qu'on me demande, j'attends d'avoir un carnet d'adresses, ça ne marche pas. Parce que tu n'as encore rien fait. Tu ne t'es pas engagé. Moi, je me suis engagé pleinement et Dieu a béni. Et j'ai cru que Dieu bénirait. Ça marche. Donc il y a eu tout un travail intérieur pour accepter la volonté de Dieu. Non seulement l'accepter, mais après oser la mettre en pratique. Ce n'est pas juste effleurer le moment, mais c'est dire, ok, là j'y vais, là je me lance. Là, je crois en toi, Seigneur. J'ai fait tout ce qu'il faut. Je me suis formé. J'ai appris. Je sais où je vais. Mais il y a encore ce petit doute. Mais je crois en toi, Seigneur. Ça marche? Vous êtes avec moi, les entrepreneurs, hein? Ouais. Alors, c'est à notre tour de nous engager. J'aimerais te rappeler que c'est impossible de s'engager pour la cause de Christ allongé dans ton canapé. C'est pas possible. Je pense que vous l'avez entendu la semaine passée, le courage, détermination. Dieu travaille avec tout notre être. Hein, et autant il y a des choses qui sont un peu bizarres en nous, autant il y a des choses très bonnes. La volonté d'y aller, le courage, l'abnégation, la persévérance, ça c'est des bonnes choses que Dieu nous a données pour vivre. Il va falloir utiliser ça pour produire un bon fruit. Mais dans le canapé, allongé, en demandant l'onction, la bénédiction, la grâce, il n'y a pas grand-chose. Moi, je n'ai jamais eu vraiment de révélation dans le canapé, je vous le dis. Dans le canapé, je n'ai pas eu beaucoup de révélations. Beaucoup dans la prière, beaucoup dans des moments difficiles où je m'attendais à Dieu, mais pas dans le canapé. Les révélations, elles ne viennent pas là. L'onction ne vient pas dans le canapé. Elle s'éloigne plutôt de nous dans le canapé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas te reposer, attention, ne faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il y a cette capacité à s'engager, à dire « Seigneur, aujourd'hui c'est difficile, mais c'est toi d'abord. Je veux aller plus loin. » Alors je vous rappelle la cause de Christ. Premièrement, on l'a lu, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de Christ. Ensuite, c'est que quand j'ai connu Christ, que je puisse croître et que je puisse tout simplement me détacher davantage des choses charnelles pour être l'homme spirituel que Dieu a prévu que je sois. Mais ça, c'est possible que si je fais ma part. Retiens bien, c'est possible que si je m'engage et que je fais ma part. Ok, je fais un point sur ma vie. Comment j'ai vécu ce mois-ci? Est-ce que j'ai été l'homme spirituel que j'aurais dû être dans telle situation, telle situation, telle situation? Là, je me suis énervé. Là, je me suis agacé. Là, j'ai eu une mauvaise... Vous voyez, il faut faire le point. Ben, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était la chair. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus réagir comme ça. Je veux bien réagir. Ça va? Ça vous va ou pas? C'est concret quand même. Alors Jean, verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que Dieu veut, c'est « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Beaucoup de nos problèmes viennent de choix que nous faisons nous-mêmes, qui nous détachent de cette liberté en Dieu. Tu as pris une décision qui te lie à certaines choses et qui t'empêche d'être vraiment libre pour Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je sois vraiment libre. Alors comment c'est possible? Je vous l'ai déjà dit, c'est le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 4 s'il vous plaît. Alors c'est Paul qui parle. Vous lirez ce chapitre, j'aime énormément ce chapitre merveilleux. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Là, il y a un sujet intéressant, vraiment très intéressant. Souvent on dit, et c'est vrai, il faut se battre contre la chair. Il faut vraiment avoir la volonté de déposer les choses charnelles derrière nous. D'accord? Le problème, c'est qu'à ça, il y a une limite. Et là, ce verset nous montre, c'est tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, c'est difficile parfois, c'est accablé. Là, on parle de gens qui ont vraiment envie d'avancer, hein. On ne parle pas de de quelqu'un. Voilà, c'est, je veux te servir, Seigneur. Mon désir est sincère, c'est d'aller plus loin avec toi. Mais c'est difficile, parce que purée, il y a des choses qui m'attirent. Il y a des choses qui sont pas évidentes. J'ai des pensées qui tournent dans ma tête. Nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. On doit se revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La volonté, c'est bien, mais tu vas arriver dans ta vie, dans un combat pour quelque chose de la chair, tu vas arriver à une limite où ce n'est plus possible. À ce moment-là, tu sais ce que tu dois faire. Tu vas arrêter d'essayer de te dépouiller de ton problème. 2 minutes, ça ne veut pas dire que tu l'acceptes. Attention, hein. Je n'ai pas dit que tu l'acceptes, que c'est OK, que tu vas vivre dans le compromis. Ce que je dis, c'est que tu vas changer de façon de voir les choses. Tu vas dire, Seigneur, tu vois ça, c'est vraiment pas correct chez moi. Ça ne te plaît pas. Mais c'est compliqué. Et là, j'ai essayé, j'ai tout mis en place. Hein. Je suis allé voir le pasteur, on a prié, j'ai mis des choses concrètes en place dans ma vie, c'est difficile. Je ne veux pas retourner là-dedans. Mais ce qu'il faut faire, c'est se laisser quoi ? Se laisser engloutir par la vie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quand on passe par les hommes, par les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe ? On est englouti. On laisse le vieil homme au fond. On le laisse au fond. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus en moi. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours ce duel en nous. Mais je n'ai plus accès parce que je l'ai laissé englouti. Je l'ai laissé. C'est comme si quelque chose s'effondrait sur toi. Il n'y a plus de force. En fait, il n'y a plus de pouvoir sur toi. Englouti par la vie. On était dans le sud l'année passée. On avait loué un petit bateau et on a commencé à naviguer et on a commencé à plonger. On s'est amusé. Donc, les enfants, ils avaient leurs lunettes. Et alors, l'eau est transparente, magnifique. Là, je vous fais rêver, là. Magnifique. Et puis, on plonge, on joue, on s'amuse. Et là, Anna, sans faire exprès, elle perd son... Et là, ça plonge, hein, tout de suite. Ça plonge. Et là, vous êtes au-dessus de l'eau, vous les voyez au fond, du sable. Là, je dis, t'inquiète pas, papa est là. Je me mets sur le bord du bateau. Sauf que je ne dépasse pas 1 mètre. Et que le truc est à 4 mètres. C'est pas possible. J'arrive pas à les chercher. Et je nage, et je nage. Et mes oreilles explosent dans tous les sens. Ah, je suis vraiment pas... En fait, je suis pas bon en natation, quoi. Vous voyez, je me suis sorti un peu, chérie, t'inquiète, papa est là. Papa, il n'a rien su faire. Il a sorti la perche et essayé de rattraper les lunettes, il n'a pas réussi. Et puis, Chanel a essayé, il n'a pas réussi. Timothée a essayé, il n'a pas réussi. On avait encore quelqu'un avec nous, il n'a pas réussi. Et alors, c'est assez exceptionnel. Tu les vois, tu veux les récupérer, mais ce n'est pas possible. Et bien, c'est la même chose avec ton ancienne nature. Lorsque tu laisses la présence de Dieu envahir ta vie, lorsque tu te laisses complètement combler dans sa présence, c'est plus possible d'aller chercher les choses qui étaient encore attachées à toi. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé, ça ne veut pas dire que ce n'était pas difficile, mais ça veut dire qu'il y a une pression sur ta vie de Dieu. Et là, on est dans l'homme spirituel qui se laisse engloutir dans sa présence. Et se laisser engloutir dans sa présence, comme je vous l'ai dit, eh ben, ce n'est pas dans le canapé. C'est quand tu as une réunion de louange ici. Tu dis, Seigneur, je veux vraiment venir dans ta présence. Je veux venir avec mes frères et sœurs pour te louer. Je veux encore être englouti. C'est quand il y a une réunion de prière. C'est quand il y a une étude biblique. C'est le matin quand tu te réveilles. Tu dis, Seigneur, engloutis-moi encore. Parce que ça n'a plus de puissance dans ma vie. Ça n'aura plus de force. C'est un engagement total, la vie avec Jésus. Ce n'est pas des préceptes et des principes et seulement se battre contre sa chair. Et le matin, tu es préoccupé par la chair. Et le midi, tu es préoccupé par la chair. Et le soir, tu es préoccupé par la chair. Je ne dois pas faire, je ne dois pas faire, je ne dois pas faire. Ça, c'est la loi. Mais de dire, Seigneur, je laisse ça là, je me tourne vers toi, remplis-moi. Ça n'a plus de force. Et là, tu n'es pas dans la religion, tu es dans la relation avec ton Père. Tu l'aimes tellement qu'il dit, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. T'inquiète pas. Mais il faut que tu passes du temps avec moi. Il faut vraiment que tu abandonnes ces choses avec moi, que tu rentres dans ma présence. C'est essentiel. Alors oui, c'est triste de voir qu'un peu de politique divise les chrétiens, de voir qu'un petit problème divise les chrétiens. Quand je dis un petit problème, oui, pour Dieu, c'est des petits problèmes. Pour nous, ça nous impacte. Mais non, c'est difficile de voir que mon travail, ça m'impacte tellement que la vie de Dieu n'est plus en moi. On a chanté « Déverse ton esprit, je veux être vivant pour toi ». Pas vivant pour la chair et les choses de ce monde. Je veux être transformé. Alors, si tu veux être transformé, il va falloir que tu laisses la pression du ciel t'engloutir, t'envahir, envahir tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas juste te dire, eh bien, mes finances m'appartiennent, ça c'est que à moi, puis Dieu, tu n'as rien à faire là. L'éducation de mes enfants, ça m'appartient, eh bien ça, Dieu, tu t'en occupes pas. Ben, tu n'es pas englouti. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces préoccupations-là vont faire que tu vas commencer à sortir de l'eau, tu auras froid, tu ne seras pas bien, et tu ne vivras pas pleinement la vie de Dieu. Est-ce que ça vous parle ce matin? Alors, je vais m'arrêter là avec ce verset qui nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, sans dire en a parlé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... C'est au fond de l'eau. Tu ne sauras plus aller les chercher. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Christ et qui nous a donné le quoi? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis des paroles de paix en toi, des paroles de joie en toi. Aujourd'hui, tu as un nouvel horizon. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas autre chose. Alors fais ta part, en dans sa présence, accepte la joie, accepte la paix et vis pleinement en lui. Parce que c'est tout simplement ce qu'il veut pour toi, il veut que tu sois libre. Arrête de galérer, arrête de regarder derrière, arrête de considérer l'ancien homme. Ce matin, on a prié pour les enfants, parce que les enfants, tous les derniers, ont prié pour l'école de dimanche, le dimanche matin, c'est pas compris, pas pour eux en règle générale, mais c'est spécifique. Les moniteurs viennent à l'intercession du dimanche matin. Et on a prié pour les enfants. Et on a prié pour cette pensée spécifique. L'enfant qui est en toi, on va prier pour lui. Il est temps de faire une mise à jour. Tu as vécu des choses, enfant, tu ne te considères pas, tu considères que tu n'es peut-être pas assez ceci, assez cela, parce que juste une fois, une personne t'a donné une parole. C'est fini, ça, c'est passé. Donc fais la mise à jour. Tu es un grand maintenant. Maintenant, tu n'es plus appelé à vivre dans la crainte, la peur, le doute, te sous-estimer constamment, mais tu es appelé à vivre la vie que Christ a prévue pour toi. Alors fais la mise à jour. Mets à jour, Seigneur, je suis à toi, je suis pleinement à toi, que ta présence me comble, je vais passer du temps avec toi, je vais connaître ton onction, je vais connaître ta présence. Jésus, je t'aime, tout simplement. Ça vous va? Alors on va prier, si vous le voulez bien, ensemble.